nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachés à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Jean-François Mattei, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait paraître un article dans le Figaro qui s'appelle « De la confusion des genres ». Et donc cette théorie, cette gender study, cette théorie du genre, s'impose progressivement dans notre paysage intellectuel. Il est déjà enseigné donc à Sciences Po. Il y aura donc à la rentrée en classe de sciences et vie de la Terre, en première, des pages là-dessus. Et il me semble que personne ne sait vraiment exactement de quoi on parle. Chacun a son idée. Et donc, je voudrais, et nous voudrions mieux comprendre avec vous d'où vient cette théorie du genre d'une part, et deuxièmement, quels sont éventuellement les éléments négatifs que l'on pourrait mettre en avant sur cette dite théorie. Alors, première chose, est-ce que vous pouvez nous définir cette théorie du genre avant de voir ou de mieux comprendre d'où elle vient?
L'expression de gender studies, qui est une expression américaine qui a été traduite plus ou moins bien par étude de genre, vient d'une expression anglaise gender qui désigne le genre grammatical. Ça ne désigne pas le genre sexué, c'est-à-dire le genre masculin ou le genre féminin, biologiquement s'entend. Ça désigne le genre grammatical, le fait que certains mots soient masculins, par exemple le mot « bonheur » en français, ou certains mots soient féminins, par exemple le mot « vertu » en français. Il se trouve que le français, parce que la confusion des genres, c'est une confusion dans la langue française elle-même, il se trouve que le français n'a pas de neutre, n'a pas de genre neutre, comme le grec, par exemple, ou comme l'anglais. Je vous rappelle, par exemple, qu'un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire un fœtus, ce n'est pas « i » ou « she », lui ou elle, c'est « it », cela, c'est-à-dire un « il » absolument neutralisé, dont on ne sait pas encore, malgré les échographies actuelles, s'il est masculin ou féminin. Alors, les théoriciennes, car ce sont surtout des femmes, de la théorie des genres aux États-Unis, un petit peu aussi au Canada et de plus en plus en France, ont excipé de ce fait grammatical pour essayer de montrer qu'il n'y a pas de véritable genre sexuel sur le plan biologique, mais que le seul genre que l'on impose dans les sociétés, et en particulier les sociétés de type occidental, c'est le genre masculin. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de domination, pour ne pas dire de tyrannie, du genre masculin sur le genre féminin, qu'il faut neutraliser. Et comment mieux le neutraliser ? Qu'en utilisant non plus le masculin ni le féminin dans le langage, mais le neutre. C'est-à-dire que le neutre éliminerait tout rapport sexué, biologique, génétique, disons en un mot, naturel, au profit d'une opposition de type culturel.
Donc il y a une domination, on peut même dire que pour ces théoriciens-là, il y a dans la division homme-femme, le principe même de la domination et donc de l'inégalité et donc peut-être aussi des discriminations
qui
peuvent exister.
C'est-à-dire qu'alors que jusqu'à présent on interprétait les différentes grammaires des différentes cultures et des différentes langues en montrant que la grammaire suivait la nature, autrement dit s'il y avait des genres grammaticaux masculins et féminins dans la grammaire, c'est-à-dire dans la langue, et donc dans la culture, c'est parce qu'il y avait des genres masculins et féminins dans la nature, on inverse complètement le rapport et on suppose que c'est le genre grammatical, c'est-à-dire la langue, elle-même une donnée essentielle de la culture, qui commande le genre sexué, c'est-à-dire la différence du masculin et du féminin. Ce n'est plus la nature qui fonde la culture, c'est la culture qui justifie la nature.
Mais ce n'est pas une question uniquement de nomination, d'appellation. L'idée, ce n'est pas seulement d'arriver à une forme d'indifférence de nomination pour éviter qu'il y ait une domination de l'un par rapport à l'autre. Ça concerne aussi la sexualité des individus.
Oui, c'est-à-dire que la stratégie est à double détente, si vous voulez. Dans un premier temps, il s'agit de corriger la langue, et donc la grammaire, et de, non plus simplement de féminiser les noms comme on l'a fait de façon quelque peu absurde, en particulier en français, en écrivant l'auteur avec un E, la professeure avec un E, etc., ce qui manque d'élégance, et qui n'est pas d'ailleurs accepté par toutes les femmes, par toutes les femmes auteurs, par toutes les femmes responsables d'une institution quelconque. Il ne s'agit pas simplement de transformer le vocabulaire ou de transformer la grammaire, de passer du masculin au féminin et donc de féminiser les noms. Il s'agit de neutraliser les oppositions masculines et féminines dans la grammaire pour sortir de la grammaire et de neutraliser les oppositions dans la société. Et on neutralisera les oppositions dans la société quand on ira au-delà de la neutralisation de la grammaire, quand on aura neutralisé les oppositions hommes-femmes au sens sexuel du terme. Et donc, ce qui est en cause, et beaucoup d'auteurs, alors cette fois-ci, je ne l'écris ni avec un R, ni avec un E, j'essaie d'éviter, et donc on ne le verra pas puisque nous parlons à la radio. On essaie de neutraliser non seulement la grammaire et la langue, mais de neutraliser les rapports sociaux eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qui est en cause, et beaucoup d'auteurs des gender studies le disent explicitement, c'est imprimé dans leurs livres, c'est l'hétérosexualité. Parce que quand vous admettez qu'il y a une hétérosexualité, c'est-à-dire une sexualité de l'autre, hétéros en grec, l'autre qui peut être une femme si je suis un homme, ou qui peut être un homme si je suis une femme, vous retombez, selon les auteurs de gender studies, dans la domination du mâle sur la femelle, ou, à la limite, dans la domination de la femelle sur le mâle, c'est-à-dire dans une domination naturaliste. Or, il s'agit d'arriver à une égalité culturaliste et non pas à une domination naturaliste. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir effacer toute différence sexuelle. Ça va jusqu'à dire, chez certains auteurs comme Monique Wittig ou comme Judith Butler, que ce n'est pas la nature qui détermine la culture, mais c'est la culture qui détermine la nature. Ce n'est pas l'hétérosexualité qui détermine l'avantage de l'homme sur la femme, pour autant que dans la plupart des civilisations, il y a eu un avantage et même une domination de l'homme sur la femme, c'est la domination culturelle de l'homme sur la femme qui détermine l'hétérosexualité. Autrement dit, c'est parce que dans la plupart des cultures, depuis l'Homo sapiens sapiens, l'homme dominait la femme, ne serait-ce qu'à cause de sa force physique ou de ses comportements culturels, à savoir qu'il était chasseur et pêcheur, alors que la femme restait à la maison pour faire cuire la nourriture, que sais-je encore, c'est parce qu'il y avait une distinction culturelle des rôles, que cela a entraîné une distinction naturelle des sexes, comme s'il n'y avait pas de sexualité biologique inscrite dans la genèse même de l'être humain, c'est-à-dire essentiellement dans la génétique.
Donc ça veut dire que, si j'entends bien ce que vous dites, pour les adeptes de cette théorie-là, il y a donc deux éléments à prendre en considération. Un, mon sexe, je suis homme ou femme, d'une part, et deuxièmement, ma sexualité. Je suis hétérosexuel ou homosexuel ou je ne sais quoi. Bon. Et donc, il faut inverser, c'est ça ? Il faut inverser,
inverser, c'est le mot,
l'ordre des choses et de considérer que c'est à partir de ma sexualité, donc si je suis hétérosexuel ou homosexuel,
en fonction de la culture régnante,
en fonction de la culture régnante et des choix qui seraient les miens,
qui seraient les miens,
qu'à ce moment-là, je détermine, c'est ça ? Ou que cette sexualité prend le pas sur mon sexe biologique. C'est ça ?
Ça va même plus loin que prendre le pas, parce que si vous dites que la culture prend le pas sur la nature, c'est vous acceptez encore une donnée naturelle. Mais dans les textes les plus radicaux des gender studies, alors c'est peut-être un excès rhétorique qu'on veut bien pardonner, mais les auteurs vont jusqu'à dire que c'est vraiment la culture qui détermine l'évolution sexuée de la personne. Autrement dit, vous vous souvenez de la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme du verbe naître, N-A-I, accent circonflexe T, on le devient. Judith Butler va jusqu'à dire, on n'est pas femme, N'E-S-T, on le devient. C'est-à-dire que ce n'est pas la naissance qui est en cause, c'est l'être de la naissance qui est en cause. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'être masculin ni d'être féminin. Il n'y a plus qu'un devenir sexuel indifférencié ou neutralisé qui confine, dans les deux cas, l'homosexualité. Car si vous niez l'hétérosexualité, vous n'avez plus comme sexualité qu'une seule issue, l'homosexualité. Et d'ailleurs, Monique Wittig, l'un des grands auteurs féminins des gender studies, est allé jusqu'à dire dans une conférence célèbre qu'elle a reprise dans des textes, « Je n'ai pas de vagin ». Phrase que l'on peut entendre dans deux sens. Dans un sens symbolique, je n'utilise pas mon vagin sous une forme sexuée, c'est-à-dire en acceptant la pénétration d'un homme, mais ça peut aller jusqu'à dire, si on le prend au pied de la lettre, qu'elle n'a pas du tout de vagin, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte de son anatomie ou de sa physiologie. Ce qui, évidemment, à la limite, n'a aucun sens. Je me demande ce qu'un médecin, ce qu'un biologiste, ce qu'un généticien peut penser de cette négation des faits en tant que tels. Il s'agit d'aller jusqu'à montrer que, et c'est là qu'il y a, me semble-t-il, une contradiction radicale qui traverse comme une langue de feu, si je puis dire, tout le discours des gender studies, on va jusqu'à dire qu'il n'y a plus de base naturelle à la culture. Mais si l'on admet ce qui est la thèse centrale des gender studies, que toute l'histoire de l'humanité, depuis l'apparition des premiers hominidés, est une domination de l'homme sur la femme, pourquoi cette universalisation de la domination? Comment expliquer qu'à chaque fois, l'homme est dominé sexuellement la femme en la prenant de force ou de gré, peu importe, de telle façon qu'il y ait pénétration du sexe masculin dans le sexe féminin. Là, la sexualisation semble bien être une donnée naturelle qui a entraîné des conséquences culturelles.
Alors, il y a deux manières de voir cette théorie-là. Soit de considérer qu'effectivement, elle est positive au sens où elle supprime les discriminations. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rejet a priori de la sexualité de l'autre, donc nous sommes dans une compréhension la plus ultime possible de la sexualité de l'autre en retirant le fondement de la discrimination, ou, et c'était un peu, me semble-t-il, le sens de votre article dans le Figaro, il y a l'introduction, sans mauvais jeu de mots, d'une confusion dans la sexualité qui est de nature à perturber le positionnement que les individus et ou les enfants peuvent avoir de leur propre compréhension sexuelle.
C'est ce que j'ai appelé la confusion des genres en donnant comme titre à cet article l'expression courante de confusion des genres. Je crois qu'il y a une confusion des genres qui va au-delà du refus d'une distinction des genres grammaticaux ou des genres sexués. Ça va jusqu'à mettre en cause, et on le voit dans les textes les plus avancés des études de genre, ça va jusqu'à mettre en cause non seulement l'hétérosexualité et donc la reproduction de l'espèce humaine, parce que si on va jusqu'au bout de cette logique, il n'y aura plus d'hommes pour pénétrer une femme, et donc les enfants, c'est le meilleur des mondes d'Huxley, hein, dans ce cas-là, seront faits en laboratoire, mais il faut bien partir d'une semence, et donc d'une dimension hétérosexuelle, d'une semence masculine qui ne serait pas les gonades féminines. Mais on va plus loin. Quand vous lisez les attendus philosophiques, cette fois-ci, de cette idéologie politique, vous apercevez que ce qui est mis en cause, ce n'est pas simplement la domination de l'homme sur la femme ou la domination d'un sexe sur l'autre, c'est la domination de la raison sur les passions, la domination de la société sur l'individu et même l'ontologie de l'homme en tant que tel. C'est l'humanisme qui est en cause, c'est la culture occidentale qui est en cause.
Pourquoi est-ce qu'effectivement la raison serait remise en cause ? Quand on remet en cause, comme c'est le cas.
Le premier à l'avoir dit, me semble-t-il, et c'est pour ça que les gender studies se mettent sous l'égide de certains auteurs critiques français, dont Jacques Derrida.
Foucault, Derrida,
qui dès les années 60-70, et donc bien avant l'apparition des gender studies, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, la théorie française, Derrida, Foucault, Lacan et beaucoup d'autres, mais en particulier, je crois, Derrida et Foucault, c'est l'idée selon laquelle, fondamentalement, la distinction homme-femme est une distinction métaphysique sur le plan des oppositions métaphysiques classiques, le bien, le mal, le haut, le bas, le ciel, la terre, etc., l'être, l'apparence, l'être, le devenir, etc. Toutes les oppositions métaphysiques devraient être supprimées, car elles sont fondées en dernière instance sur l'opposition de l'homme sur la femme. C'est-à-dire sur ce que Aristote appelait dans la métaphysique la table des opposés. Si vous y réfléchissez bien, vous apercevez que la philosophie a commencé chez les présocratiques, mais c'est Aristote qui fait le premier de cette réflexion, par une table d'opposés. Le jour, la nuit, l'homme, la femme, le haut, le bas, le bien, le mal, etc. Il y en a tout un ensemble chez Aristote. Et Aristote fait remarquer que les pythagoriciens qui ont fait cette table des opposés moralisaient, donc, on dirait aujourd'hui, culturiser cette table des opposés biologiques ou naturels. Il y avait par exemple le mâle, la femelle, la droite, la gauche. Tout ce jeu d'opposition que Derrida appelle de jeu un jeu d'opposition métaphysique, doit être annulé, car ce jeu d'opposition métaphysique, pour Derrida, en philosophie, tire son origine de l'opposition de l'homme et de la femme, de l'opposition du sexe masculin et du sexe féminin. Et c'est la raison pour laquelle Derrida, quand il fait la déconstruction du logocentrisme, qu'il appelle en même temps l'européocentrisme ou l'eurocentrisme, donc la déconstruction de la logique rationnelle de l'Europe serait la déconstruction politique de l'Europe, et en même temps la déconstruction paternaliste de l'Europe, puisque Derrida fait remarquer que le phallocentrisme, c'est-à-dire la centralité du phallus, et donc de la tyrannie masculine, est liée au logocentrisme et à l'eurocentrisme. Donc c'est une succession de jeux de cartes ou de jeux de dominos qui s'abattent, si vous voulez. Si vous supprimez l'opposition de l'homme et de la femme, sans le vouloir ou sans le savoir, mais les théoriciens des gender studies le savent bien, vous supprimez toutes les autres oppositions, y compris l'opposition à la limite du bien et du mal, l'opposition de la culture et de la nature. C'est-à-dire, c'est une déconstruction généralisée ou une annulation généralisée de toutes les différences. Car fondamentalement, qu'on le veuille ou pas, la différence fondamentale dans tous nos jeux d'opposition, dans notre discours, c'est l'opposition du mâle et de la femelle.
Mais est-ce que cette suppression de la différence, est-ce qu'elle est plus négative que positive? Parce qu'on peut imaginer que si nous sommes dans un monde indifférencié, à ce moment-là, les conflits, les oppositions, etc., seront moins forts que quand on est dans un monde qui, par définition et par avance et par nature, peut-être même, est un monde de la différence.
Deux réponses à votre question. D'une part, nous ne pouvons pas savoir ce que serait un tel monde, car jusqu'à présent, il n'a jamais existé. Que serait un monde de pure indifférence, de gris sur gris ou de camailleux sur camailleux? On ne peut pas le savoir. Ce que l'on sait généralement, c'est que tout ce qui a été créatif dans le monde depuis l'apparition de l'Homo sapiens sapiens a été fondé sur des différences. Des différences théoriques, des différences pratiques, des différences d'opposition, sur des jeux d'opposition, Hegel dirait sur des jeux dialectiques. Si vous niez la dialectique, et vous ferez remarquer que Derrida a toujours été anti-hegélien et négateur de la dialectique, si vous refusez le jeu des oppositions, dont la première, qu'on le veuille ou pas, c'est l'opposition du mâle et de la femelle, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, vous détruisez toutes les autres oppositions. Alors, deuxième réponse, c'est certain, il n'y aurait plus de conflit, puisqu'il n'y aurait plus d'opposition, puisqu'il n'y aurait plus d'autres. Si vous supprimez l'altérité, si vous supprimez la différence, Platon le disait déjà dans un dialogue de lui tardif qui s'appelle Le Sophiste, si vous supprimez l'idée d'autre, tatéron en grec, vous n'avez même plus l'idée de même, toton en grec. Si vous supprimez l'hétérologie, vous n'avez plus la tautologie. C'est-à-dire, si vous supprimez le jeu d'opposition entre le même et l'autre, qui est toujours créatif dans la mesure où je rencontre quelqu'un ou quelque chose qui est différent de moi, vous n'avez plus d'autoconstitution du moi en tant que tel.
C'est ça.
En tout cas, c'est ce que je crains. Je ne vois pas comment... à la limite même, je ne le crains pas, car je ne vois pas comment il pourrait y avoir une histoire humaine ou un changement si on ne fait pas introduire l'autre dans le même en tant que tel. Et ce qui est le plus paradoxal, c'est que les théoriciens des gender studies, en se réclamant des déconstructeurs, se réclament d'une déconstruction de l'hétérosexualité, donc de l'hétérologie, donc de la différence, pour arriver à tout annuler et à tout unifier. C'est un peu ce qu'avait déjà prévu Nietzsche quand il montrait que l'évolution de la pensée européenne, dans les années 1880-90, pour Nietzsche, risquait d'arriver à tout transformer, disait Nietzsche, en sable. Un sable rond, infini, indifférent. Hein, c'est un texte assez connu de Nietzsche. Si effectivement la culture devient une sorte d'ensablement généralisé, c'est-à-dire de neutralisation de toutes les différences, qu'elles soient politiques, la droite et la gauche, qu'elles soient économiques, la richesse et la pauvreté, qu'elles soient intellectuelles ou qu'elles soient tout simplement éthiques, le bien et le mal, si vous supprimez l'opposition fondamentale du bien et du mal, qui peut être raccordée aussi à l'opposition du jour et de la nuit, il y a toute une dimension symbolique de jeu d'opposition. Et si vous supprimez l'opposition fondamentale et créatrice de toutes les autres, du mâle et de la femelle, qui permet à l'humanité, et pas simplement à l'humanité, à l'animalité de se reproduire, puisque la vie a inventé, sinon Dieu lui-même, ne faisons pas intervenir une hypothèse aussi importante, mais si la nature a inventé la reproduction sexuelle, c'est-à-dire la différence sexuée en tant que telle, on ne voit pas comment une idéologie serait-elle aussi sympathique au demeurant des gender studies pourrait en montrer la fin.
Donc, et nous allons en rester là, donc vous indiquez effectivement clairement que cette théorie d'une gender, dans un souci d'indifférenciation, remettrait en cause fondamentalement le principe des oppositions ou des complémentarités.
Tout à fait.
Et que donc ce dialogue constitutif, et qui est dans toute la philosophie, entre l'autre et le même, là, je me comprends par l'autre et l'autre me comprend par moi, et que donc, effectivement, par ce jeu d'opposition, j'existe, cela serait effectivement remis en cause.
Je crois que toute la culture s'effondrerait.
Voilà, donc écoutez, Jean-François Mattei, merci beaucoup. Je signale donc que vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle donc Le procès de l'Europe, grandeur et misère de la culture européenne, et nous ferons un entretien autour de ce livre-là. Jean-François Mattei, merci.
Merci de votre invitation. Thank you.